traverse sur le 106.6 de Radio Campus jusqu'à 14h. Nous sommes en compagnie de Fabrice Rizzoli, spécialiste de la criminalité organisée et représentant en France du réseau associatif FLAIR, Freedom, Legality and Rights in Europe, qui milite pour la réutilisation à des fins sociales des biens confisqués au crime organisé. Il est l'auteur du Petit dictionnaire énervé de la mafia aux éditions de L'Opportun, un petit ouvrage à mettre entre toutes les mains et dans toutes les poches. Le titre aurait d'ailleurs pu être « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la mafia sans oser le demander ». Le sujet en France ne passionne pas les foules qui pensent que la mafia c'est du cinéma et que comme le nuage de Tchernobyl, elle ne passe pas les frontières françaises et reste en Italie là où elle est née, aux États-Unis, voire en Russie, en Chine ou au Japon. Mais la réalité est tout autre et ce n'est pas un hasard si l'ONU en 2010 a déclaré le crime organisé comme principale menace pour l'ordre mondial. Alors, pour introduire ce sujet tout à fait léger, Fabrice Rizzoli, juste un petit mot sur votre parcours personnel et qu'est-ce qui vous a décidé à devenir un spécialiste des mafias plutôt ?
Très certainement, une histoire singulière mais sans exagérer. Tout d'abord, le fait que j'ai grandi une partie de ma vie sur la Côte d'Azur. Et dans des débits de boissons. J'y ai même travaillé très très jeune dans mon adolescence. Très clairement, j'ai grandi à Juan-les-Pins une partie de l'année pendant 20 ans. Et dans le café dans lequel je travaillais, il n'y avait pas une machine à sous, mais deux machines à sous clandestines. Je passe sur l'underworld, le sous-monde qu'on peut rencontrer dans ce genre d'établissement, corse, calabrais, sicilien, serbe et français. Par exemple, je vais me confier aujourd'hui, je suis sorti avec une fille dont le père était le placier, c'est lui qui plaçait les machines à sous. Donc voilà, c'était le quotidien. Et puis il faut dire que quand je rentrais de la Côte d'Azur, parce que j'y travaillais donc 2 mois par an, eh bien, soit je retournais dans mon 19e arrondissement des années 80, qui est donc l'arrondissement le plus criminogène de Paris. Donc c'est une époque où les gens se piquent à l'héroïne dans les cages d'escalier. Et moi, donc, je prends la cage d'escalier pour aller jouer au foot, parce que je n'ai que 10, 12, 13, 14, 15 ans. Mais c'est aussi une interrogation, d'où vient cette drogue, comment ça fonctionne, etc. Et puis, quand je déménage du 19e arrondissement, eh bien, j'arrive en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus criminogène de France. Et je jouais beaucoup au football, je jouais avec des jeunes qui vendaient 100, 200 grammes de cannabis le samedi soir de 18h à 22h, quoi. Donc, il fallait bien que je mette tout ça en forme et que, comme je voulais faire des études, que voilà, j'ai fait un doctorat de sciences politiques sur les mafias italiennes.
Et finalement, vous auriez pu devenir trafiquant de drogue ?
Non, parce que j'ai pas les épaules nécessaires. C'est un rapport de force quand même assez constant quand on est dans ce milieu-là. Vous pouvez pas vous permettre de faire crédit à quelqu'un d'une barrette de shit et ne pas lui réclamer pendant une semaine. Et si il vous la donne pas, ben il faut utiliser la violence, hein. Sinon vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas remboursé. Et puis il n'y a pas que la drogue, il y aurait pu y avoir d'autres choses, mais précisément mon éducation, mes parents, etc. Ne baignaient pas dans ce milieu eux, et donc manifestement c'est pas du tout pour moi.
Voilà, ça vous tentait pas, mais vous êtes passé pas loin quand même. Alors, est-ce que la mafia est une spécialité italienne ?
Peut-être pas. Ce qui est une spécialité italienne, c'est d'avoir 4 mafias les plus étudiées, les mieux connues au monde. Donc il est fort probable qu'il existe des mafias en Chine, au Japon, c'est sûr, et ailleurs.
Ah bah en Chine, il y a les triades quand même.
Ah, moi, je sais pas. D'abord, je parle pas chinois. Bon. C'est un état totalitaire. Il n'y a pas de source. Donc, moi, tous les gens qui parlent de mafia chinoise, en fait, leurs sources sont Hong Kong, Taïwan, Grande-Bretagne, États-Unis, donc dans des démocraties.
Ah oui, d'accord.
Il n'y a pas de connaissance du phénomène mafieux sans démocratie, sans journalistes qui ne se font pas assassiner en 48 heures. Ils peuvent se faire assassiner après avoir sorti un livre, mais au moins le livre est sorti. Pas de mafia sans magistrature, pas de mafia sans université où on peut étudier le thème. Et l'Italie est le paradigme de l'antimafia pour commencer dans les sources et dans l'étude. Ce sont pas moins de 30 livres par an qui sortent sur les mafias en Italie. Chaque magistrat antimafia écrit son livre. Vous avez des chaires universitaires avec des professeurs qui maintenant enseignent la mafia et l'antimafia, comment gérer les biens confisqués, etc. C'est pas du tout le cas dans les autres pays. Dans aucun autre pays au monde, c'est le cas. Maintenant, le Japon est une démocratie. Les mafias sont consubstantielles à la démocratie japonaise. Et donc, on sait quand même, parce qu'il y a quand même des journalistes, il y a quand même des procès. Mais par contre, sur les États dictatoriaux ou même sur l'Afrique, je suis sûr qu'il peut exister des mafias, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien le phénomène de manière scientifique.
Donc, évitons tout ce qui n'est pas étudiable.
Ben, où on peut, mais si vous voulez, prenez l'exemple de la Russie, c'est un bon exemple,
oui.
Qui est une... au moins une semi-démocratie, au minimum, une semi-démocratie. Il doit y avoir de tout. Il doit y avoir de la mafia, comme moi je l'entends dans ma définition universitaire, etc. Mais les oligarques qui se sont appropriés tous les moyens de production au moment de la transition économie étatisée, planifiée, à économie dite de marché, est-ce que c'est de la mafia ? C'est compliqué. En réalité, c'est tellement le pouvoir en soi... que ça rentre pas dans la définition de la mafia. Pour nous, la mafia, c'est une entité qui est certes tout le temps liée au pouvoir, mais le pouvoir a sa propre structure, son propre chemin. Mais il se sert de la mafia.
D'accord. Pas de mafia d'État, donc. Parce que la Russie, c'est clairement une mafia d'État.
Voilà, c'est ça. C'est toutes ces histoires de narco-État, etc. L'Italie est tout sauf un narco-État. L'Italie est une vraie démocratie, accomplie, transparente, c'est-à-dire largement imparfaite, capable de porter au pouvoir des gens comme Silvio Berlusconi, qui doit sa carrière à la mafia, mais qui, lui, n'est pas mafieux. Il n'a pas prêté le serment d'allégeance à la mafia. Il est un complice lointain et assez intéressant de la mafia.
Quelle différence ça fait de prêter le serment ou pas, si finalement...
Alors, prêter serment, le rite d'affiliation fait que vous devenez mafieux, que vous appartenez au clan et que vous avez les devoirs et les droits afférents à cette appartenance. Quand un chef mafieux doit trancher un litige entre un mafieux et par exemple ce qu'on appelle un associé dans la mafia italo-américaine, s'il veut être encore le chef, il faut qu'il tranche en faveur du soldat mafieux. Même si c'est lui qui a escroqué l'associé. Parce que c'est ce qui se passe en réalité. Hein. Donc il faut qu'il tranche et puis il faut tuer l'associé. Hein. Après, il y a aussi les devoirs. Hein. C'est-à-dire que si votre chef vous dit « Maintenant, vous allez tuer votre beau-frère parce qu'il doit de l'argent au clan », hein, ce qui arrive, donc le soldat va étrangler le beau-frère et va dormir le soir aux côtés de sa femme, de qui il a tué le frère, et va vivre comme ça pendant des années, parce que très souvent dans ces cas-là, on fait disparaître le corps, on fait une disparition mafieuse, on a loupé là bien un cas, et on fait croire que la personne est partie, mais en même temps tout le monde a compris qu'il était mort. Mais il a fallu tuer le frère de sa femme. Il faut obéir aux ordres. Voilà, et c'est ça appartenir à la mafia. Alors quand on est complice, on a aussi des devoirs et des droits, mais c'est quand même plus élastique. Quelqu'un comme Berlusconi doit sa carrière à la mafia à l'origine. Il doit sa mise au pouvoir par des gens qui sont autour de lui en 94, qui le portent au pouvoir. Il va le faire son maximum. Il va promulguer le maximum de lois qui va d'abord l'avantager lui. Ça, c'est une différence entre le mafieux et le complice. D'abord lui, et puis il va tout faire pour avantager la mafia. Mais s'il n'y arrive pas, aux dernières nouvelles, la mafia n'avait pas tenté de l'assassiner. On lui envoie des messages, on lui fait comprendre des choses. Voilà, on lui fait comprendre qu'on peut sortir des documents, etc. Si Berlusconi était mafieux, qu'il n'avait pas respecté le contrat, il serait déjà mort.
Bah, puisque vous parlez de Berlusconi, c'est le moment de parler de la loge P2, peut-être ?
Alors le problème de la franc-maçonnerie est un autre exemple assez intéressant pour défendre le si tout est mafia, rien n'est mafia. De la même manière, moi qui connais autour de moi des francs-maçons et qui n'en suis pas, de loin, la plupart des francs-maçons ne sont pas complices de la mafia. Le problème, c'est qu'en Italie, il y a eu une forte tradition maçonnique, en plus clandestine, ce qui n'est pas le cas de la loge P2, je l'ai appris un peu tardivement. La loge P2 est une loge clandestine au sein d'une loge qui existait au sein du Grand Orient. La particularité était que les adhérents, l'identité des adhérents était même ignorée des autres adhérents de la loge. Ce qui est quand même assez poussé jusqu'au bout, quoi, enfin, du secret, du subversif. Évidemment, quand on fait ça, quand on veut renverser l'état de droit pour y mettre un état plus fort, en gros, hein, la loge P2, c'est si l'Italie peut devenir le Chili, l'Espagne ou la Grèce des colonels, ça les arrange. Hein. Évidemment, bah, elle rencontre un autre pouvoir clandestin et parallèle, qui s'appelle la mafia, avec qui elle va essayer de passer des deals. Mais c'est intéressant de voir que ce sont des échanges de services qui ne fonctionnent pas toujours. Quand il s'agit de faire du trafic d'armes, de financer du trafic de drogue, ils s'entendent. Mais quand il s'est agi, par exemple, de faire des coups d'État en Italie, un jour, les gens de la loge P2 et les membres du coup d'État de l'extrême droite sont allés voir les mafieux siciliens. « Si vous nous aidez, on vous promet l'impunité. » On prend le pouvoir en 1970. Mais dans le deal, les francs-maçons disent, et puis l'extrême droite dit, mais vous devrez nous donner la liste de vos adhérents de la mafia. Là, tout d'un coup, les mafieux marchent en arrière. D'abord, ils ont goûté au fascisme, hein, qui n'a pas vraiment lutté contre la mafia, mais qui l'a un peu fait. Donc, ils savent que si l'État se met réellement contre eux de manière autoritaire, ça peut quand même leur faire du mal. Et puis, à partir du moment où la liste des adhérents est révélée, le pouvoir de la mafia disparaît. Voilà. Et bien, ils refusent. Ils refusent, ils acceptent d'envoyer un ou deux tueurs à Rome pour tuer le président de la République, etc. Hein, les mafieux siciliens vont arriver à Rome hein, lors du coup d'État Borghese de 1970. Le coup d'État sera avorté par les propres commanditaires du coup d'État. Mais ils ne participeront pas à l'occupation du territoire, ce que par contre fera la mafia calabraise, acceptera pour d'autres raisons. Bilan des courses, la franc-maçonnerie c'est une chose. Les corrompus au sein de la franc-maçonnerie, en particulier clandestine, hein, parce qu'en Italie, vous avez des gens qui se réunissent autour d'une table, mettent trois symboles maçonniques et décident qu'ils ont fait une loge. Hein. Normalement, ça ne se passe pas quand même comme ça. Hein, d'accord ? Et là, ils décident bah, de mettre autour de la table le chef d'entreprise, le politicien, le chef de la police, etc. Et tenir en coupe réglée la ville, si vous voulez. Là, on a vraiment des complicités poussées à l'extrême.
Est-ce qu'on peut parler vraiment de mafia en Corse ?
Je sais pas. Je pense qu'on manque de sources. Je risque d'être très sévère envers la France dans mon analyse. Tout d'abord, je ne vois pas comment on peut lutter contre une mafia, donc si elle existait, s'il n'y a pas de tradition universitaire, si quelqu'un comme moi qui a fait une thèse sur la mafia n'a absolument pas le voix au chapitre dans l'université française, on ne pourra jamais étudier vraiment le phénomène et savoir si encore c'est la mafia. Puisque la mafia est, a des complicités de manière symbiotique, parfois avec le monde politique, tant que la magistrature en France ne sera pas indépendante, on ne saura pas l'étendue des complicités. Alors je peux un peu développer, mais très clairement, bon, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à deux reprises pour le manque d'indépendance de son parquet. Les procureurs sont nommés par le ministre de la Justice. Associé à un truc en droit incroyable qui s'appelle le principe d'opportunité poursuite, fait qu'un procureur peut classer sans suite, sans presque aucun moyen de recours, il ne faut pas exagérer non plus, une plainte, un signalement. Bilan des courses, un procureur qui ne veut pas finir sa carrière dans la Creuse, dès qu'il y a une affaire avec un élu, c'est super compliqué à gérer. Je n'ai pas dit complicité, corruption, c'est le système qui crée ça.
C'est
qui
ingérable.
Fait que, oula, il est marié à tel élu, ça va faire une histoire, on ne sait pas, la présomption d'innocence, le truc totalement hypocrite en France. Hein. On ne devrait pas parler des gens qui sont mis en examen, mais tout le monde en parle. Voilà. Ça fait que on n'arrive pas à aller au bout des enquêtes, rarement. On a des condamnations extrêmement minimes, parallèles, par exemple dans Pasqua, alors que l'immensité du réseau était bien plus immense, je ne sais pas le dire autrement. Tout ça fait qu'on manque d'instruments pour arriver à comprendre le phénomène criminel corse. Avec quand même une chose intéressante, c'est que dès qu'il y a des attentats, alors là l'État français réagit, là il est capable de mettre toute la magistrature en branle, même la presse m'interroge. Alors les attentats, oui mais c'était début décembre. Alors les attentats, la nuit bleue. Mais moi, je m'en fous. Ce week-end, il y a un gérant de boîte de nuit qui a été assassiné. C'est ça, la nouvelle. C'est pas les attentats. Ça, on va facilement trouver les responsables, les mettre en prison, etc. Par contre, le gérant de boîte de nuit, est-ce qu'il blanchissait de l'argent ? À quel clan il appartenait ? Pourquoi il a été assassiné ? Ça, par contre, c'est l'impunité la plus totale. Maintenant, il n'y a pas que la Corse. Prenons l'affaire Guérini. Au-delà du politicien qui est quand même mis en examen pour association de malfaiteurs. Hein. Ce qui est intéressant, c'est son frère, qui est le chef d'entreprise. Et qu'est-ce qui se cache derrière ? Il se cache les frères Baresi. Sur trois frères, il y en a quand même déjà deux qui sont condamnés de manière définitive par la justice, un pour extorsion, l'autre pour braquage. Quand même une spécialité française, hein. C'est pas un petit truc, le braquage en France. Les membres du crime organisé français forment les autres criminels en Europe sur le braquage de fourgons blindés.
Voilà, d'accord, c'est notre spécialité.
Enfin, c'est notre spécialité, avec les machines à sous. Et l'autre frère Barési, 18 ans de cavale, a été arrêté sur le port de Golfe-Juan, là où il m'est arrivé de travailler.
Que vous connaissez bien.
Oui, je connais très bien. Après 18 ans de cavale, c'est vraiment un des gros caïds. Je gratte avec mes étudiants du cas pratique de l'école des sciences de traitement de l'information. On gratte les sources. Qu'est-ce qu'on découvre ? Que ces trois frères ont tous des femmes et des ex-femmes avec lesquelles ils ont tous des entreprises, des sociétés. Sécurité, bâtiments, déchets, et tout ça avec des appels d'offres publics. Ça commence à ressembler à de la mafia.
Effectivement. Alors, les liens entre le terrorisme et la mafia sont totalement d'actualité, en tout cas aujourd'hui, puisque la prise d'otages qui se déroule en ce moment en Algérie, il paraîtrait que le chef de ce groupe qui s'est démarqué d'Al-Qaïda au Maghreb est surnommé Mister Marlboro. Alors moi je me suis dit, Mister Marlboro, il doit faire du trafic de cigarettes, il paraît qu'il fait du trafic d'armes. Donc est-ce qu'les liens entre le terrorisme et la mafia, voilà.
Quand je commence mes cours avec mes élèves, en général les cours s'appellent terrorisme et criminalité organisée.
Voilà, on va
et
faire
par exemple,
le cours,
sur 15 heures, je fais une heure et demie de terrorisme et tout le reste je fais de la criminalité organisée.
D'accord.
Vous avez compris quel est mon penchant. Simplement, c'est quand même intéressant de montrer les différences, parce que je crois qu'il y a une différence. Que veulent les terroristes par rapport aux criminels professionnels ? Très clairement, à un moment ou à un autre, les terroristes veulent prendre le pouvoir. Que les Basques veulent leur indépendance, que les Corses veulent leur indépendance, à un moment ou à un autre, c'est pour administrer le pays. Al-Qaïda au Maghreb, etc., c'est partez. Partez, puissance occidentale qui appuyait ces gouvernements injustes. Ça, on le répète jamais assez, les bombes qui sont posées par les islamistes, en Europe ou ailleurs, ce sont des bombes, certes, qui nous sont adressées, puisqu'elles sont sur notre territoire, mais qui ne sont pas, ils ne veulent pas nous imposer la charia, c'est pas vrai. Ils demandent à nous, puissance militaire, économique très importante, d'arrêter de soutenir ces gouvernements extrêmement injustes et corrompus, égyptiens, je parle en plus avant le printemps arabe, arrêter de les soutenir, nous on veut prendre le pouvoir. Eh bien, ça, c'est le terrorisme. Eh bien, c'est pas la mafia. La mafia veut pas prendre le pouvoir.
Mais sauf que le terrorisme utilise l'argent.
Alors après, le terrorisme utilise des actions criminelles pour se financer. C'est instrumental.
Voilà, mais du coup, tout est lié.
Tout est lié, mais je crois que quand même, quand on a des objectifs différents, on a quand même des choses différentes. Parce que du coup, là, on peut intervenir de manière ciblée, séparer les gens, etc. Si vous ne résolvez pas les conditions économiques, etc., vous aurez toujours des revendications pour prendre le pouvoir. Voilà.
Et les conditions pour que la mafia se développe, c'est l'extrême pauvreté.
Oui et non. La mafia est présente au Japon, première puissance économique mondiale, ou alors c'est
certes.
La deuxième ou c'est la troisième, ça dépend, etc. Non, la vraie définition de la mafia, c'est Umberto Santino qui la déploie depuis la fin des années 70. On parle de bourgeoisie mafieuse, on parle d'un corps social. C'est-à-dire que les mafieux n'existent pas sans leurs complices. Et tout ça est fait pour engranger du capital, pour asseoir quand même son pouvoir, mais ce sont les complices qui sont politiciens, administrateurs, etc. Ça montre que la mafia peut très bien se développer dans des environnements riches. La mafia italo-américaine va peut-être être née de la pauvreté de certains ghettos, mais en réalité, c'est une mafia totalement américaine. Les Italiens ont été un peu plus forts à un moment que les Irlandais, les Juifs, les Allemands, etc. Mais en réalité, ils sont aujourd'hui totalement insérés dans l'économie américaine, pas plus tard qu'avant-hier. C'est une série d'arrestations pour le marché du ramassage des déchets, ramassage légal des déchets, dans la ville, dans le New Jersey, etc. On a affaire à des gens qui, pour les mafieux, essayent de monter de catégorie sociale, mais les complices sont dans la haute catégorie sociale. Et c'est une économie dynamique, les États-Unis, le Japon et ailleurs. Par contre, ce qui est intéressant dans la pauvreté, c'est que, enfin, le sous-développement économique, c'est qu'il permet de recruter des gens. Et c'est pour ça qu'en Italie, encore une fois, on a inventé des concepts extrêmement subtils de socio-économie. C'est la thèse, par exemple, de Nando della Chiesa, professeur d'université à Milan, fils du général della Chiesa, assassiné par la mafia. Il parle de sous-développement organisé. J'adore ce terme. Mm-hmm. C'est comment, en Sicile, par exemple, en réalité, vous avez des richesses agricoles, notamment, touristiques et autres, mais comment les services font défaut ? Comment finalement, quand vous êtes de la basse catégorie sociale, mère célibataire, etc., vous avez recours aux mafieux pour avoir un rendez-vous chez le médecin spécialiste, pour avoir un travail pour votre enfant, pour travailler dans un bar qui appartient à un mafieux qui blanchit l'argent de la drogue. C'est extrêmement pratique qu'il y ait des poches de pauvreté, mais il ne faut pas voir la mafia comme vivant dans un milieu totalement pauvre. Au contraire, il lui faut des richesses.
Et dans le sous-développement organisé, j'ai appris dans votre livre qu'en Sicile, on avait organisé le manque d'eau.
Alors oui, depuis un siècle et demi, les mafieux contrôlaient les points d'eau, alors à l'époque des grandes propriétés terriennes dont ils avaient la garde, puisque une des facteurs de naissance de la mafia sicilienne, ce sont ces grands propriétaires terriens, ne voulant pas partager leurs terres, qui ont mis des mafieux pour notamment tenir les révoltes paysans et conserver leurs prérogatives. Eh bien, les mafieux ont tout de suite compris l'enjeu stratégique de l'eau. Ils ont d'abord occupé les puits pour toujours être capables de raréfier l'eau. Puis après, ils se sont mis dans le business des digues. Mais vous aviez la vieille mafia qui ne voulait pas construire les digues parce qu'elle voulait continuer à contrôler les points d'eau. Mais la jeunesse avait compris qu'avec les appels d'offres, ils gagneraient autant d'argent. Puis après, ils se sont mis dans le business des bouteilles en plastique. Non, mais je veux dire... Et maintenant, ils contrôlent les supermarchés. Les complices de la mafia contrôlent les supermarchés. Et même quand les grandes surfaces françaises veulent s'installer en Italie du Sud, elles pactisent avec la mafia. Alors, pas directement. Elles passent par des sociétés basées à Rome, ce qui permet de ne pas être condamnées.
Donc, il y a des sociétés intermédiaires qui font le lien entre les mafieux et les non-mafieux.
Oui, et c'est d'ailleurs été condamné par la justice italienne. La justice italienne a condamné une structure économique de conseil, machin, consulting, facilité à Rome, qui a permis à une grande enseigne française de construire le plus grand supermarché de la Calabre. Ce supermarché de la Calabre a entraîné un flux de corruption généralisé, parce que par exemple, il ne devait pas être construit à cet endroit-là, c'était interdit. Donc on a corrompu la ville, on a menacé les paysans pour qu'ils vendent leurs terrains non constructibles, devenu après constructible pour faire la culbute. On a corrompu un agent de la région qui a changé le plan d'occupation des sols économiques pour qu'on puisse faire cette grande surface. Et la violence, parce qu'il y a eu des assassinats, etc. Mais la justice italienne, qui elle fonctionne dans la lutte anti-mafia, a condamné non seulement les mafieux, les complices, le politicien de la ville, le politicien de la région et le gérant de la société à Rome.
Et malgré toutes ces condamnations, ça va recommencer ?
Oui, mais quand on part d'une Italie des années 70 où on niait l'existence de la mafia, quand on part d'une Italie des années 70 où la mafia sicilienne faisait 1000 morts entre 78 et 82, et qu'entre-temps on a mis en place la confiscation, 1982, le statut des collaborateurs de justice, 91, la loi sur la réutilisation à des fins sociales de ces biens confisqués, aujourd'hui on ne tue plus en Sicile. C'est 8 meurtres pour 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on tue moins en Italie qu'en France. Et si on tue moins en Italie qu'en France, c'est parce que l'Italie a réussi à faire baisser le nombre du meurtre de crime organisé qui était grand pourvoyeur d'homicides. En Corse, il y a 30 meurtres homicides au sens du droit, c'est-à-dire qu'il faut inclure les tentatives. C'est de 15 à 20 meurtres par an, plus une dizaine de tentatives sur 300 000 habitants. C'est juste le taux le plus élevé de l'OCDE, si vous voulez. On tue plus en Corse que dans des régions albanaises. Voilà. Donc c'est quand même à prendre en compte. Ça, c'est parce que règne une impunité. Ce n'est pas le cas en Italie. Donc, OK, la mafia n'a pas été éradiquée en Italie, mais aujourd'hui, en Sicile, des commerçants mettent un autocollant en disant « je ne paye plus le racket ». Excusez-moi, mais c'est une révolution. Y compris si aujourd'hui, on condamne des commerçants qui ont mis l'autocollant alors qu'ils payaient quand même le racket. Parce que ça aussi, ça existe. Mais en réalité, vous avez un véritable changement d'atmosphère, société civile qui émerge et qui est capable de dire « moi, je suis contre la mafia ». Avant, c'était totalement impossible. Je suis venu avec quelque chose qui ne se fait absolument pas à la radio. Je suis venu avec quelque chose à manger.
Ah oui, on n'a pas le droit de manger dans le studio.
Eh bien oui, je sais. Donc, c'est promis, je ne le ferai pas. Mais je suis venu avec des petits biscuits, des tarali, qui sont faits à base de céréales qu'on fait sur des terrains confisqués à la mafia. Et aujourd'hui, vous pouvez déguster tous ces gâteaux en Italie, et vous pouvez aussi les déguster en France, à Paris, chez Itikando, 6 rue de la Grange-Aubel, dans le 10e.
Bon, et puis oui, finalement, on va donner votre téléphone, comme ça on pourra commander des petits gâteaux. Pour en revenir à la mafia, la chute du mur de Berlin en 89, ça a complètement changé la donne en Italie.
En Italie et ailleurs, très clairement, moi j'étais quand même un post-ado, jeune adulte politisé qui quand même était bien content de la chute du mur, que quand même il trouvait que ce qu'il y avait de l'autre côté du rideau de fer, c'était quand même pas fun, c'était quand même pas drôle, même du point de vue démocratique. Bon, je me suis pas trompé, c'est quand même bien. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à ce point, le marché, le capitalisme, ferait des ravages. Alors, on ne va pas lancer les critiques économiques, mais dans mon domaine de spécialité, la mafia s'éclate maintenant. C'est-à-dire que d'abord, ça ouvre de nouveaux territoires où, par la consommation, comme une richesse qui va... On peut vendre de la drogue. C'est-à-dire aujourd'hui, c'était quand même des endroits où on se droguait à la vodka, où une certaine élite, maintenant, on peut se droguer à toutes les drogues. Hein, voilà.
Et avec la bénédiction du gouvernement.
Évidemment, oui, on a quand même des États comme la Bulgarie, où c'est quand même super craignos, la Roumanie, la Moldavie, j'en parle même pas, ils ne sont pas dans l'Europe. Oui, l'Albanie n'est pas dans l'Europe non plus, mais oui, ça a vraiment libéré les carrières criminelles. À telle enseigne que souvent, la particularité dans les pays de l'Est, c'est que ce sont des anciens de l'État, en particulier des services de renseignement, des forces de sécurité qui sont devenus des chefs mafieux. Pas seulement, hein, mais comme quoi l'expertise de la part des forces de l'ordre est parfois asymétriquement la même que celle des mafieux. Mais il y a aussi tout le côté investissement. À partir du moment où les mafieux italiens sont engoncés à cause de la confiscation, 11 milliards ces deux dernières années, saisie par la justice italienne, dont 80% de confiscation définitive, 11 milliards d'avoirs. Ça commence à les faire flipper. Ils investissent beaucoup plus facilement en Roumanie, en Russie, où on ne leur demande pas du tout l'origine de leurs capitaux. Mais il n'y a pas que dans ces pays-là. Je rappelle que vous pouvez monter une entreprise au Luxembourg sans qu'on vous demande du tout l'origine de vos capitaux.
Et puis en Belgique, ça doit être assez facile aussi.
Oui, encore qu'en Belgique, c'est plus l'évasion fiscale. Et encore, il faut être résident, etc. Après, tout est toujours possible. Ça dépend du niveau de puissance qu'on a en économie. Parce que si on est vraiment puissant, de toute façon, on a toutes les ressources pour les bons avocats, les bons systèmes, etc. Mais chaque pays a sa spécialité. Au Luxembourg, c'est la possibilité de créer une entreprise sans qu'on sache d'où vient. Parce que sinon, après, au niveau coopération, c'est un État où, si vous demandez coopération à un magistrat, le magistrat vous répond. Alors que dans d'autres États, on ne vous répond même pas. Hein, dans les paradis fiscaux, avec la vraie définition, ailleurs, c'est même pas, il n'y a même pas de réponse judiciaire. Non, la chute du mur de Berlin a vraiment ouvert de nouveaux espaces économiques, de population, etc. Il y a eu aussi l'arrivée de populations sur l'Europe de l'Ouest. Je me souviens de l'arrivage d'Albanais. Je dis arrivage parce que c'était vraiment ça. Hein.
Sur les côtes italiennes.
Sur les côtes italiennes et alors sur le talon de la botte. Et ce qui était très très drôle, c'est que la mafia naissante des Pouilles a pris son envol grâce à cette période et alors avait divisé la côte des Pouilles en deux. Au sud, les cigarettes, c'est à l'époque le contrebande de cigarettes, entre parenthèses, alimentées par les fabricants de tabac. Hein, les cigarettes, elles ne sortent pas d'usines clandestines. Hein, ce sont des vraies cigarettes. Et au nord, les clandestins. Donc vous aviez comme ça vraiment une répartition des territoires. Donc effectivement, oui, la chute du mur de Berlin. Bon, mais en même temps, on va pas regretter une certaine bouffée d'oxygène. Mais la vérité, c'est qu'il faudrait que tous les États se mettent autour de la table et mettent ensemble les mêmes dispositions pour lutter contre le crime organisé.
Et visiblement, c'est pas encore le cas.
Non.
Alors, la chute du mur de Berlin a profité à la mafia, mais la crise aussi, puisque un journal aussi sérieux que le Figaro titrait il y a un an « La mafia, première banque d'une Italie en crise ?» Point d'interrogation.
Oui. Oui, le Figaro, c'est un journal sérieux. Il a pris son information des journaux italiens. Ce qui se passe dans les crédit crunch, hein, quand il manque de liquidités, c'est les gens qui ont des liquidités qui en profitent. En même temps, bon, le titre, hein, Première Banque d'Italie, c'est
oui,
largement
c'était,
exagéré.
C'était hein. provocateur. Mais
d'autant plus que les banquiers savent eux-mêmes être de très grands gangsters, bien supérieurs aux mafieux, parfois.
Hein, pas, bon, certes.
Pas, mis pas à part... que je tombe moi non plus dans la caricature et dans la généralité. Mais très clairement, j'adore étudier la mafia, mais j'aime bien aussi la faire redescendre à son niveau. C'est-à-dire que la crise économique d'aujourd'hui, tout cet argent, toute cette richesse produite depuis 30 ans, qui ne va pas aux salariés, mais qui va au capital...
Oui, c'est pas la mafia.
Voilà, c'est pas du tout la mafia. Hein, c'est vraiment un système des élites dans le monde. Et même quand on analyse la crise des subprimes, la mafia italo-américaine et d'autres sont dedans, par complicité avec ces courtiers, j'ai pas le terme anglo-saxon, ces courtiers qui étaient chargés de faire
traders.
Signer
c'est pas les traders.
Oui, mais c'est un nom express, c'est les courtiers immobiliers pour faire signer les contrats des subprimes à ces familles qui n'avaient pas les moyens d'avoir une maison, mais qu'on endettait sur la valeur de leur maison. Alors là, les mafieux italo-américains se sont insérés, avaient aussi des parts en bourse, etc. Mais c'est pas les mafieux, c'est le système économique financier américain qui a produit cette crise. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un entrepreneur, vos revenus de base baissent, vous devez payer les fournisseurs, vous devez continuer à payer l'électricité, le loyer, etc. Il vous faut de l'argent. Et dans ce cas-là, vous allez voir l'usurier. Très souvent, le mafieux est usurier. Il arrive que l'usurier ne soit pas mafieux. À Rome, qui est une ville emprise d'usure, beaucoup se pratiquent l'usure. Et c'est parfois les commerçants eux-mêmes qui deviennent usuriers, des autres commerçants. Et ils ne sont pas mafieux pour autant. Mais c'est vrai que par contre, dans l'Italie du Sud, l'usurier est en général mafieux. Et que du coup, le mafieux prête, le mafieux suce le sang, tout ce qu'il peut de l'entreprise. Puis après, prend le contrôle de l'entreprise ou pas. Ça peut ne pas l'arranger de prendre le contrôle de l'entreprise. C'est parfois subtil. Ça dépend des stratégies, ça dépend des moments et des nécessités.
Puis c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même assez surprenant quand on sait que la mafia contrôle certains syndicats, notamment celui des dockers. Donc on pourrait faire, je pense, une émission là-dessus, rien que sur la mafia aux États-Unis. Pour terminer, quel rôle joue Flair, cette association dont on a parlé tout à l'heure dans la lutte anti-mafia ?
Flair, c'est une association italienne à la base, avec un siège à Turin, qui a été créée en 2008, qui est, si vous voulez, la continuation d'un projet, le projet Libera. Libera, c'est cette association qui naît en 1995, déjà d'un prêtre social qui venait en aide aux prostituées et aux toxicomanes, et donc souvent aux prostituées et toxicomanes, qui a compris que tous ces biens confisqués qu'il y avait en Italie, il y arrivait un moment, il fallait leur donner un sens. Parce qu'en plus, il faut bien voir que même si je pose avec autorité l'idée que c'est génial de confisquer, que 11 milliards d'avoirs, c'est génial, on réduit le pouvoir économique des mafias, mais il arrive un moment où on rentre dans un système où, comme les mafieux n'ont qu'une obsession, c'est de confisquer d'accumuler des biens, plus vous leur confisquez, plus eux continuent. Donc il faut arriver à un moment où, casser la spirale. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc que ces biens soient réutilisés à des fins sociales. Et donc Libera fait un référendum, ça c'est important, 1 million de signatures en 95, et obtient une loi. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Hein. C'est pas, enfin, la révolution, c'est compliqué. Quoi. On obtient une loi, on réutilise à des fins sociales ces biens confisqués. Seulement Libera et ses 1700 associations anti-mafia en Italie, il arrive un moment où elle comprend que si elle pose pas le projet en Europe, ça sert à rien. Précisément, si on fait pas de la prévention en Roumanie pour expliquer aux jeunes femmes roumaines que les petits contrats de travail, au petit bonheur la chance, à Chypre, à Bruxelles ou à Paris, ce sont des réseaux de prostitution, ça ne marche pas toujours de faire cette prévention, mais il faut de toute façon le faire, parce que si on le fait pas, c'est sûr que ça marchera pas, par contre. Hein. Et ben Flair, c'est ça. Flair, c'est mettre en réseau en Europe toutes les associations qui luttent de près ou de loin contre le crime organisé, association contre la corruption, association pour la protection du trafic de migrants, association qui défend les droits des migrants. Plus vous défendez les droits des migrants, et moins vous les mettez dans les réseaux de prostitution, les prostitutions organisées. Hein. Et j'espère qu'un jour on en viendra, ça c'est un autre dada que j'ai, on pourrait faire une émission là-dessus, qu'on en viendra aussi à un lobbying et un réseautage sur les associations qui promeuvent une autre manière de voir la prohibition des drogues, car je rappelle que la drogue reste le premier facteur d'accumulation du capital de toutes les organisations criminelles. Hein. Exemple en Italie, 130 milliards par an, c'est 57 milliards pour la drogue. Et que très clairement, la prohibition enrichit les mafias et qu'il existe d'autres modèles. Et que si on arrivait, par exemple, en France à faire bouger les lignes, à créer une autre manière, par exemple, de consommer du cannabis, c'est possible, ça existe, c'est compatible avec les lois internationales, etc. On couperait à un moment le lien entre le consommateur et le crime organisé.
Ben, je dirais qu'on couperait l'herbe sous le pied, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Fabrice Rizzoli, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un petit livre indispensable sur le sujet, Le petit dictionnaire énervé de la mafia, paru aux éditions de L'Opportun.